Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du Festival de Cannes qui se tient actuellement sur la Croisette, la plus glamour du monde, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec une écrivaine dont la gourmandise cinématographique irrigue un certain nombre de ses livres, où on a pu croiser Romy Schneider, Simone Signoret, Jean-Luc Godard et aussi François Truffaut, Jeanne Moreau et Orson Welles, invitée d'honneur de son nouveau roman intitulé « L'ourson » aux éditions Joël Losfeld. Bonjour Chantal Pelletier.
Bonjour.
Votre personnage, Anne, ici, qui va rencontrer le cinéaste et acteur américain, dit dans ce livre qu'à l'âge de 11 ans, la joie du cinéma l'a prise tous les jours dans ses bras. Et vous, quelle est votre histoire avec le 7e art? Quand est-ce qu'a eu lieu la rencontre?
Plutôt à l'adolescence. C'est vraiment le cinéma qui m'a ouvert les fenêtres, qui m'a donné le goût, je pense, de la liberté, au moins autant que la littérature. Je dirais parallèlement à la littérature. J'ai l'impression que peut-être que la littérature a été la clé et vraiment le cinéma m'a permis d'ouvrir la porte, c'est-à-dire la poignée de la porte, déverrouiller puis ouvrir.
Donc vous êtes cinéphile ?
Pas vraiment, parce que j'ai pas une connaissance encyclopédique du cinéma. C'est vraiment, j'aime le cinéma, j'aime aller voir des films en salle, j'aime aussi voir des films autrement. Mais je ne me prétends pas cinéphile, parce que pour moi, cinéphile, c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance qui est au-delà de la mienne.
On va parler de Anne dans quelques instants plus précisément. Je reste encore un peu avec vous, Chantal Pelletier, sur cet amour du cinéma qui est si fort chez vous néanmoins, qu'il s'invite donc dans votre écriture romanesque avec Romy Schneider, Simone Signoret, qui sont des personnages à part entière. Qu'est-ce que la littérature dévoile plus que l'image, selon vous ?
Je trouve qu'il y a une porosité entre le cinéma et la vie qui me passionne dans l'écriture de toute façon, et notamment par l'intermédiaire du cinéma, qui crée des idoles et des personnages qui sont extrêmement vivants et qui incarnent vraiment quelque chose. Et c'est vrai que je me passionne pour les personnages qui ont du charisme, vraiment d'une façon complètement réelle. Alors évidemment, quand on prend Romy Schneider, c'était à la fois cette beauté, mais très très émouvante. C'était pas une beauté complètement parfaite, mais elle était une sorte de femme idéale qu'on y croyait vraiment. Elle avait une authenticité, etc. Quand on parle de Wells, c'est un personnage démesuré et je trouve qu'ils ont une réalité formidable.
Alors parlons en effet d'Orson Welles maintenant, qui est au cœur de ce roman L'ourson. Orson Welles, rappelons-le, qui est un acteur et réalisateur devenu mythique. Il est né en 1915 aux États-Unis et juste avant de devenir très jeune, l'auteur du film culte Citizen Kane en 1940. Il avait déjà fait une entrée spectaculaire dans la vie des Américains puisque sur les ondes d'une radio où était diffusée son adaptation du roman La guerre des mondes, la mise en onde était si réaliste que tout le monde a cru à une réelle attaque d'extraterrestres, d'autant plus que le programme est interrompu par un speaker qui annonce une coupure technique comme si en effet il y avait une véritable invasion, ce qui aurait créé une vague de panique dans tout le pays. Je vous propose, Chantal Pelletier, d'écouter un extrait de cette archive du 30 octobre 1938.
Wait a minute, something's happening. Hump shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission.
Voilà cet extrait saisissant qui, je le rappelle, donc date du 30 octobre 1938 où on a un aperçu du génie d'Orson Welles avec ses débuts précoces. Mais vous, Chantal Pelletier, qu'est-ce que vous retenez de la carrière de ce cinéaste ou de l'homme qui en effet a souvent été comparé à un ogre en raison de sa taille, de son poids. Qu'est-ce que vous aimez dans son œuvre ou chez lui en particulier ?
C'est la richesse extraordinaire de son personnage, parce que là, vous venez de passer cet extrait. Donc déjà, c'est un homme qui commence par la voix, en même temps qu'il fait du théâtre. Hein. Et dans tout ce qu'il entreprend, il va être novateur. C'est-à-dire que je crois que c'est en 1936 qu'il fait jouer Macbeth à Harlem uniquement par des acteurs noirs. Donc on imagine aujourd'hui, ce serait une petite révolution, mais vous imaginez en 1936, c'est incroyable. D'imaginer des émissions de radio où justement on confond la réalité et la fiction, on montre que finalement la fiction a plus de poids pratiquement que la réalité, en jouant sur le fait, parce qu'il joue sur beaucoup de choses, parce qu'on est en 1938, et déjà il y a la peur de la guerre, il y a la menace de la guerre qui rôde, donc il joue aussi sur cette peur qu'ont les Américains. Et donc c'est quelque chose qui va avoir un retentissement mondial. Alors la panique, elle n'est pas générale aux États-Unis, il y a une panique comme ça parmi les auditeurs qui écoutent cette émission, mais surtout ça va avoir un retentissement mondial, parce que personne n'aurait jamais imaginé faire ça. Donc avant même de réaliser son premier film, qui est quand même un coup de maître, Citizen Kane, qui va être pendant des décennies considéré comme le meilleur film de tous les temps, il a déjà révolutionné d'autres domaines. Et en plus, ce qui m'intéressait aussi dans ce personnage, puisque c'est une rencontre entre la narratrice et ce personnage, c'est que c'est un acteur. C'est un acteur avec tout le charisme d'un acteur. Il faut imaginer, par exemple, que dans Le Troisième Homme, dont il n'est pas le réalisateur, il a un rôle absolument épouvantable un horrible bonhomme, vraiment, qui a tué des femmes, qui est responsable de la mort de femmes et d'enfants, bon, etc. Il apparaît assez tardivement dans le film, et juste par son sourire, par son visage qui est éclairé par l'éclat d'une fenêtre, tout à coup, on est complètement avec lui. C'est-à-dire, on sait toutes les horreurs qu'il a commises, mais on l'accompagne. Et quand il est poursuivi, on a envie qu'il se sauve. On n'est même pas du côté de ses poursuivants, on est de son côté. C'est-à-dire, donc, c'est quelqu'un qui avait une qualité d'interprétation époustouflante. Donc, vous voyez, mêler tout ça, c'est-à-dire cette voix extraordinaire, ce charisme extraordinaire de comédien et puis ce talent de réalisateur, c'est quand même unique. C'est vraiment, je pense pas qu'il y ait d'équivalent aujourd'hui dans l'histoire du cinéma.
Donc voici planté le décor et le personnage clé de votre livre, Chantal Pelletier. Dans quelques instants, nous allons entrer dans ce roman. Avant cela, une pause. Est-ce qu'il y a un extrait ou une musique de film d'Orson Welles que vous aimeriez écouter maintenant ?
La musique du Troisième Homme, parce que c'est une musique qui reste énormément présente dans la tête dès qu'on l'entend à nouveau. Welles n'est pas le réalisateur du film, mais on sait qu'il a quand même été très présent dans l'élaboration du film et notamment dans le choix de la musique.
Alors on écoute en effet cette bande originale du film Le Troisième Homme. Thank you. bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Chantal Pelletier pour son nouveau roman intitulé L'ourson, paru aux éditions Joël Losfeld, un titre en référence à Orson Welles que nous avons déjà longuement évoqué en première partie, cinéaste et acteur américain. Et puisque d'ailleurs nous sommes en plein festival de Cannes, rappelons qu'il a été récompensé à 3 reprises sur La Croisette pour Othello, Le Génie du Mal et Falstaff. Bref, une personnalité hors norme qui apparaît dans votre fiction et qui s'invite donc dans la vie de votre narratrice, Anne. Nous sommes en effet en 1984. Elle est documentaliste photo dans un journal de cinéma, une jeune femme d'une 30aine d'années, timide, au passé douloureux. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Anne, Chantal Pelletier ?
Je pense qu'elle incarne la modestie, la solitude et à la fois une assez bonne lucidité, une forme d'intelligence et d'attention qui finalement vont lui être utiles dans cette rencontre avec cet homme, qu'elle va finir par débusquer un peu. Et malgré ce rapport complètement disproportionné entre ce géant surpuissant et elle, qui se considère comme une petite chose, eh bien finalement, ça ne va pas être si simple. Et si j'ai choisi ce titre « L'ourson », c'est aussi pour montrer que finalement, cette espèce d'ogre, elle va l'amadouer peu à peu et elle va l'apprivoiser, elle va presque le transformer en jouet de compagnie, je dirais, comme un ourson.
Alors cette rencontre fictive est néanmoins très plausible puisque, en effet, il avait un lien très particulier avec la France, Orson Welles, vous le rappelez. Il parlait un peu français, il était francophile, et puis il venait régulièrement à Paris, et il a tourné même d'ailleurs sur notre territoire, c'est cela ?
Oui, bien sûr, il a tourné notamment le procès à ce qui est aujourd'hui le musée d'Orsay, et puis qui a été avant la gare d'Orsay, au moment où elle était désaffectée. Et qu'il a utilisé comme un décor absolument fabuleux, très, très théâtral. Et puis, il a tourné aussi au Bois de Boulogne, il a tourné Gare d'Austerlitz. De toute façon, il a beaucoup tourné en Europe, parce que finalement, il a fait la grande partie de sa carrière en Europe, parce que les Américains n'ont pas été très accueillants. C'est-à-dire, alors, malgré son talent, sa précocité, etc., ils ne lui ont pas pardonné d'avoir tourné ce premier film qui était à la fois contre l'establishment américain, qui mettait en perspective un mania de la presse fort puissant en Californie, etc., dont il a tout managé, c'est-à-dire il a vraiment tout dirigé, eu le rôle principal, terminé toute la post-production, etc., ce qui ne plaisait pas du tout aux producteurs, qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce genre de comportement. Et donc, très vite, l'Europe sera un refuge pour lui. Vous parliez justement de ses distinctions à Cannes, mais effectivement, par exemple, quand il a l'équivalent de la Palme d'Or, ça ne s'appelle pas tout à fait la Palme d'Or à l'époque, je crois que c'est en 1952, pour Othello, qui est un film pourtant qui a été complètement ravaudé, rapiécé, parce qu'il l'a tourné dans différents endroits, avec des comédiens différents, que ça a été vraiment un tournage extrêmement difficile. Les Américains ont eu énormément du mal à lui pardonner, et ce film, et notamment ce film distingué à Cannes, parce qu'il met en scène Othello, qui est noir de peau et qui est fou amoureux d'une blonde, enfin, etc. C'est-à-dire, c'était des choses qui étaient absolument impensables à Hollywood à cette époque-là.
Alors, puisque vous parliez de ce film, Le procès, d'après Kafka, qu'il a tourné en effet en France et où il dirigeait Jeanne Moreau, qui est une autre de vos actrices de prédilection, eh bien, je vous propose d'écouter cette archive extraite de l'émission Vive le cinéma, enregistrée en 1972 au Café de Ritz à Paris, où ils parlent tous les deux.
Sans les accidents, et nous n'avons pas le cinéma du tout. Ça, c'est le grand défaut de la fameuse belle époque de Hollywood. Il n'y a pas d'accident.
Non.
C'est trop bien fait.
On ne permet pas aux éléments extérieurs d'arriver jusque sur le plateau.
Ça, oui.
Il y a des gardes, il y a des grands studios, les portes sont fermées.
Procès, par exemple. Nous avons fait ensemble aussi le procès.
Ouais.
Et dans le milieu du film, annonce qu'il n'y a pas d'argent pour tout le décor. J'avais tourné pas du tout de choses importantes du film. J'étais dans l'hôtel Maurice jusqu'à côté d'ici.
Oui, je m'en souviens.
Et c'est les 3 heures dans le matin, j'avais pensé, comment c'est possible de tourner ce film sans décor? J'avais descendu, pris un taxi, j'avais entré dans le gare du Palais d'Orsay et j'avais trouvé tout le
décor
pour presque tout le film. Part de temps, petite chambre et les autres choses.
Ah oui, et puis l'hôtel est magnifique aussi.
Ouais. C'est les deux lunes.
Les deux lunes. Hein? C'est beau ça.
Voilà cet extrait entre Orson Welles et Jeanne Moreau. Et on revient avec vous, Chantal Pelletier, à ce roman L'Ourson. Avec donc cette rencontre tout à fait inattendue entre le cinéaste américain et cette jeune femme parisienne, Anne. Et si vous voulez bien nous lire justement l'extrait où ils se rencontrent, ou en tout cas, ils déjeunent ensemble. C'est au début du roman.
Il m'a ouvert la porte du restaurant Les Bons Amis, où les chroniqueurs de la revue déjeunent régulièrement. Un restaurant familial à la cuisine traditionnelle, un peu désuète, qui n'a pas beaucoup changé depuis les années 50. Le serveur nous a conduits au fond de la salle. Orson a ôté son écharpe, son chapeau, son manteau. Des odeurs d'hommes soignés, déodorants, aftershave, m'ont emmailloté d'une douceur si apaisante que j'en ai chancelé. Devant sa corpulence, l'intensité de son regard, la façon dingue dont il accaparait l'espace, je n'étais rien du tout à un point qui me faisait mal. Il a dégagé une chaise de la table, m'a invité à m'asseoir, s'est installé en face de moi. Tête baissée, pétrifiée dans mon châle, je regardais fixement mes doigts courts et boudinés, mes ongles rongés avec les petites peaux bouffées tout autour. Leur réalisme pitoyable ne pouvait tromper personne. J'étais lamentable. Il m'a tendu la carte. Je préfère passer tout de suite aux choses sérieuses, n'est-ce pas ? J'ai commandé le plat du jour sans demander ce que c'était. Lui a opté pour des œufs en meurette et je ne sais quoi. Lorsque le serveur a posé le plat du jour devant moi, une odeur de concentré de tomate m'est montée aux narines, des boulettes de viande en sauce reposaient sur un monticule de purée. La proposition n'avait pas fière allure, ce qui n'avait aucune importance, je n'avais pas l'intention d'y toucher. Une enquête. Le mot m'a fait sursauter. Enquêter ? Mais c'était bien au-dessus de mes moyens modestes. J'avais déjà suffisamment de mal à suivre mon chemin sans dérailler.
Merci Chantal Pelletier pour cet extrait de L'Ourson qui met donc en scène ce déjeuner. Alors, un déjeuner qui est raconté par Anne dans un de ses carnets, puisqu'elle écrit une forme de journal intime, ou en tout cas, elle raconte son quotidien, son passé d'orpheline, et puis elle pointe ici et là les différences et les points communs qu'elle a avec Orson. Mais qu'est-ce que, et je vous cite, la petite employée peureuse, modeste et solitaire et la star mondiale majestueuse et admirée partagent selon vous ?
Eh bien, c'est le sujet de l'enquête. C'est bien le sujet de l'enquête parce que là, le mot enquêter est dit dans l'extrait, mais parce qu'effectivement, elle est tellement impressionnée par cette rencontre au cours de laquelle Orson Welles lui a demandé de faire un repérage. Elle n'a pas tout compris, elle n'a pas tout entendu vraiment. Elle sait qu'il veut tourner un film à Paris et qu'il a besoin d'elle. Et elle connaît bien le cinéma, elle a plein de références qui peuvent l'aider, etc. Mais elle ne sait pas quoi exactement. Donc, il faut qu'elle élucide ce mystère. Et donc, elle interroge en permanence pourquoi elle, pourquoi il est venu vers elle. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la ville, avec Paris, avec le cinéma, avec lui, avec son passé, avec leurs points communs. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est comment, dans une rencontre aussi disproportionnée, on peut se trouver des points communs. Finalement, on vient de deux continents complètement différents, de deux milieux complètement différents. On n'a pas du tout le même âge. On n'a pas du tout. Il y en a un qui a beaucoup de pouvoir, l'autre qui n'en a pas du tout. Et finalement, y a des points communs parce que finalement, ils sont deux solitaires, parce que finalement, on est tous toujours un peu solitaires. Et puis, ils ont l'amour du cinéma en commun. Ils ont la capacité de rêver, parce que le cinéma, c'est ça. C'est quand même la capacité de rêver, c'est incarner un rêve, hein, finalement, de réussir à tourner un film et à le montrer. Et donc, finalement, c'est ça qui m'a intéressée, c'est la façon dont ils vont se trouver dans le jeu, dans le rêve. Parce que tous les films d'Orson Welles, donc réalisés par Orson Welles, sont des enquêtes, oui, sur lui-même, sur un personnage, sur un mot qui est prononcé, qu'on doit comprendre, etc. Et donc, j'ai aussi suivi ce schéma. Et puis, j'avais envie aussi de suivre quelque chose qui était vraiment une sorte de métaphore de l'écriture. C'est-à-dire, on est devant un mystère, et qu'est-ce qu'on fait ? On prend des notes, et on essaye de les ranger, on essaye de les mêler pour qu'elles prennent un sens, pour remporter le lecteur dans quelque chose qui va être une histoire. Et là, l'histoire, elle est en permanence en train de se faire, en fait.
Et pourtant, à un point donné, l'admiration, l'amour qu'elle lui porte se transforme en rage. Qu'est-ce qui s'est passé, Chantal Pelletier ?
Bien sûr, puisque quand on commence à enquêter sur quelqu'un un peu plus profondément, bon, il y a les apparences, où on voit les succès, les réussites, les choses impressionnantes. Et puis après, quand on va dessous, on voit que sous tout ça, c'est pas si simple. Il y a les échecs, il y a tous les gens qui vous ont tourné le dos, il y a tout ce que vous avez sacrifié pour arriver plus vite, pour réaliser un projet. Je veux dire que votre vie personnelle qui est passée à l'as parce que vous êtes un peu trop consacré à votre passion, en l'occurrence le cinéma, etc. Donc c'est un peu la remise en cause du père, c'est-à-dire un père n'est jamais tout puissant, il a toujours des failles, et c'est par les failles qu'on arrive à, peut-être en exprimant sa colère, mais c'est comme ça que se développe une vraie relation, en fait.
Alors, est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce que c'est un délire ? Est-ce que c'est la réalité ? On ne saura jamais si cette relation existe entre Anne et Orson Welles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette rencontre permet à Anne de mettre sur le papier ses angoisses. Et pourtant, ça ne va pas suffire. Évidemment, on ne dira rien de ce qui arrive à la fin. Mais c'est comme si vous nous disiez, Chantal Pelletier, que finalement, l'art ne peut pas nous sauver complètement, hélas.
Non, et surtout que quand on s'y prête vraiment, c'est-à-dire quand on n'est plus seulement consommatrice d'un art, mais qu'on est créateur, on peut s'y brûler. Parce que vouloir percer un mystère et vouloir entrer dans cette obsession de l'écriture, ça rend fou un peu, ça fragilise. On croit que c'est un bienfait, mais en fait, c'est un bienfait qui fait quand même des dégâts en passant. Et c'était ça, enfin, cet équilibre extrêmement fragile à trouver avec l'écriture. C'est-à-dire, est-ce qu'écrire fait du bien ou est-ce qu'écrire met en danger ? C'est les deux, bien sûr. C'est-à-dire, si on ne se met pas en danger, on ne peut pas trouver un salut, mais en même temps, le danger est là.
Donc, c'est aussi de vous, de votre expérience que vous nous parlez, Chantal Pelletier, dans ce roman, qui pourtant me semble un peu loin de vous, enfin, à la fois loin et proche.
C'est-à-dire, oui, il n'y a aucun élément autobiographique dans le sens où je n'ai pas grand-chose à voir dans ma personnalité, ni avec Orson Welles, ni avec cette jeune femme. Mais bien sûr, c'est-à-dire, dans leur rêve et dans leur amour du cinéma et dans leur passion du cinéma, bien sûr que je suis extrêmement présente. Puis aussi dans cette interrogation autour de l'écriture, bien sûr.
Une écriture qui peut rendre fou, rendre folle.
Voilà, mais oui, qui peut fragiliser, oui, au lieu de consolider, ben bien sûr.
Ça, c'est une de vos peurs ?
C'est une de mes constatations. C'est pas toujours si simple, parce que quand on écrit, on ne fait pas que raconter des histoires. Écrire et raconter, c'est pas tout à fait la même chose. Et quand on essaye d'être un peu au-delà de raconter une histoire et de livrer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, d'ailleurs. C'est ce qui est... Dans l'écriture, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui échappe. C'est pas ce qui est contrôlé. Donc, et dans ce qui échappe, ben, c'est pas toujours facile à exprimer et à regarder en face.
Le 10 octobre 1985, meurt Orson Welles. À 70 ans, un an après, le cinéaste François Truffaut, qui lui a été emporté beaucoup plus jeune, il avait 52 ans, il est mort d'une tumeur. Il se trouve que la mort de François Truffaut ouvre votre roman et celle d'Orson Welles le referme, Chantal Pelletier. Vous y voyez un lien ou c'est juste un calendrier ?
Il y a l'histoire d'un calendrier, mais il y a aussi l'histoire d'être inscrite dans l'histoire du cinéma, malgré tout. Parce qu'il y a quand même un fil dans le livre aussi entre le cinéma américain, le cinéma européen, le cinéma américain qui, à l'époque, est quand même le cinéma mondial et le petit cinéma européen qui, lui, a été important, qui émerge, qui va être la nouvelle vague, enfin, qui a été la nouvelle vague, pardon. Et donc, c'est un fil dans le livre qui compte pour moi. Et voilà, la mort de Truffaut, 20 ans, 25 ans après le début de la nouvelle vague, oui, ça a un sens. Et la mort d'Orson Welles, c'est-à-dire les grands d'Hollywood, ça a un sens aussi, bien sûr.
Votre roman se finit sur une évocation de Marlon Brando, Un tramway nommé Désir, Sur les quais, L'équipée sauvage, La poursuite impitoyable, La vengeance aux deux visages, Le parrain, Dernier tango à Paris, Apocalypse Now... quelques-uns des titres emblématiques de cette carrière extraordinaire. Est-ce que c'est le sujet de votre prochain roman, Chantal Pelletier, Marlon Brando ?
Pas vraiment, mais à la fois, ce qui peut être commun entre Orson Welles et Brando, c'est qu'ils ont quand même fini tous les deux en échec, assez abandonnés, assez dépassés par eux-mêmes, c'est-à-dire dans l'obésité et les excès, et que donc ils ont probablement touché à quelque chose qui brûlait assez fort quand même.
Mais pas assez pour que vous puissiez lui consacrer une fiction ?
Pour l'instant, je n'y ai pas pensé, mais maintenant que la graine est là, peut-être qu'elle va pousser, je ne sais pas.
En attendant à lire ce nouveau roman, merci beaucoup Chantal Pelletier, L'ourson qui est apparu aux éditions Joël Losfeld.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ».